I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Tic toc. Les semaines s'enchaînent et le temps passe vite, très vite, trop vite même pour TikTok. L'avenir du réseau social n'a jamais été autant remis en question aux États-Unis. Les législateurs américains tentent de lui fixer un ultimatum. Début mars, un projet de loi bipartisan a été dévoilé. S'il est voté et appliqué, ByteDance, maison mère de TikTok, pourrait être obligé de vendre sa plateforme. Pire, le réseau social pourrait tout bonnement être interdit sur le sol américain. Ce n'est pas la première tentative. Depuis le mandat de Donald Trump, l'administration américaine s'attaque à TikTok. Elle tente soit d'en forcer la vente, soit de l'interdire. Espionnage, propagande pour les États-Unis, ce géant chinois poserait des problèmes de sécurité nationale. Mais cette fois, c'est différent. Ce projet de loi avance très rapidement dans le processus législatif. Des votes ont déjà eu lieu, tous favorables au texte. TikTok tente bien d'organiser la résistance en mobilisant ses 170 millions d'utilisateurs outre-Atlantique. Mais plus les semaines passent, plus la situation semble se dégrader. Il n'en faut pas plus pour que beaucoup prédisent déjà la fin de la plateforme. Cependant, ne vendons pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Avec Mathilde Vellier, chercheuse au sein du Centre géopolitique des technologies de l'IFRI, spécialiste des enjeux internationaux liés aux nouvelles technologies, je vais vous montrer qu'il faut relativiser. Nous allons voir qu'il reste encore plusieurs étapes avant que ce projet ne devienne loi et que la loi ne s'applique. Peut-être même que ce texte ne deviendra jamais réalité. C'est parti, vous écoutez un épisode de Culture Numérique, un podcast de Siècle Digital. Bonjour Mathilde Vellier.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour cette émission afin de parler de la possible interdiction de TikTok. Le possible est important. Le réseau social préféré des jeunes, une interdiction éventuelle aux États-Unis. Je précise que vous êtes chercheuse à l'IFRI, l'Institut français des relations internationales. Alors pour bien comprendre la situation en 2024, il faut, je pense, ce n'est que mon avis, revenir un peu sur ces dernières années parce que ça ne date pas d'hier que l'oncle Sam essaye de mettre un terme à TikTok ou en tout cas à TikTok version chinoise. Alors Mathilde, depuis quand les États-Unis tentent-ils d'interdire TikTok ou d'en forcer la vente? Parce qu'il y a eu ça aussi. Hein. Je pense qu'il faut remonter, selon moi, à la fin du mandat de Donald Trump.
Oui, alors effectivement, ça ne date pas d'hier, mais c'est quand même plutôt récent sur l'échelle des politiques américaines. Donc simplement pour rappeler, TikTok est disponible aux États-Unis depuis 2018, après avoir racheté puis fusionné avec une autre application qui s'appelait Musical.ly. Et effectivement, assez rapidement après, on voit les premières actions de l'administration Trump pour essayer d'interdire TikTok avec deux actions principales à partir de 2020. D'abord, par décret présidentiel, le président Trump essaye d'interdire TikTok en août. Et ensuite, il lance, ce qui c'est peut-être un peu moins connu, mais aussi une procédure via le comité de contrôle des investissements entrants aux États-Unis, qui est un nom barbare, CFIUS. Et puisque, effectivement, comme Biden a racheté une application américaine, Trump considère que c'est une menace à la sécurité nationale et donc lance aussi via ce comité une procédure pour peut-être mettre en place soit des possibles mesures de mitigation des risques, soit aller jusqu'à une décision d'interdiction de TikTok. Et donc, depuis 2020, on a vu toute une série de développements dans les cours de justice, au Congrès et dans les administrations.
Et parmi ces développements qu'il y a eu depuis, est-ce qu'il y a eu une tentative pour faire en sorte que une entreprise américaine rachète TikTok, notamment Microsoft, non?
Oui, alors il y a eu un peu des projets lancés sur ce type de mesures. Après, c'est assez compliqué quand même de forcer juridiquement ce type de rachat, surtout que plusieurs problèmes se posent en fait avec les questions d'interdiction de rachat de TikTok, des questions de violation du premier amendement qui garantit la liberté d'expression aux États-Unis, des questions aussi même de concurrence, enfin de compétition et de concurrence d'antitrust. Donc c'est plutôt passé par des décrets présidentiels qui visaient à l'interdire ou des mesures d'investigation sur par le CFIUS. Sachant que ce qui est assez, assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a quand même le rôle des cours de justice dans tout ça qui fait que même après les mesures de, par exemple, l'administration Trump, TikTok a pu attaquer en justice et être gagnant et débouter les décrets présidentiels de l'administration Trump.
C'est pour ça que jusqu'à présent, ça n'a pas été interdit malgré les divers décrets. Il y a aussi eu des propositions, des projets de loi, non ?
Oui, exactement. Alors, pour l'instant, au niveau fédéral, les projets de loi qui ont été adoptés, donc il y en a notamment un en décembre 2022, il me semble, qui a été adopté, mais qui concerne uniquement, en fait, qui interdit TikTok pour les fonctionnaires sur leur téléphone professionnel fourni par le gouvernement. Ça a effectivement été adopté au niveau fédéral et également dans différents États des États-Unis. D'ailleurs, il y a aussi une des mesures prises par des villes, etc. Mais ça concerne uniquement les appareils fournis par le gouvernement. Ensuite, le projet de loi, il y a eu beaucoup de projets de loi au Congrès fédéral, mais notamment environ une demi-douzaine l'année dernière, qui passent à chaque fois par des biais juridiques différents, législatifs différents pour essayer d'interdire TikTok. Mais pour l'instant, aucun n'a été adopté. Le seul projet de loi qui vraiment interdit pour les utilisateurs lambda, on va dire TikTok, c'est une loi étatique dans le Montana qui a été signée par le gouvernement en mai 2023 et qui interdit tout court TikTok d'opérer au sein de l'État. C'est le premier État à faire ça aux États-Unis. Mais encore une fois, TikTok l'a contesté en justice, ce qui a conduit un juge à mettre en pause cette interdiction qui n'a donc pour l'instant jamais pris effet. Donc, les utilisateurs de Montana peuvent toujours regarder des danses sur TikTok pour des raisons de violation du Premier Amendement et violation aussi de la juridiction du Congrès fédéral. Donc, pour l'instant, elle n'a pas pris effet. Et ça préfigure un peu aussi, on va en parler, mais des potentielles difficultés, des batailles juridiques à venir à l'échelle fédérale vu les projets de loi qui s'y dessinent.
Justement, oui, j'allais dire, le Montana, on en reparlera, on sera sûrement amené à en reparler par la suite. Mais juste avant, il y a encore pas mal de choses à dire. Pourquoi ces tentatives ? Que reprochent les Américains à TikTok ? Et en général, ils évoquent des risques pour la sécurité nationale.
Oui, exactement. En fait, le lien quand même principal, c'est la Chine. Donc, c'est ça la menace pour la sécurité nationale. Mais plus précisément, je pense qu'on peut distinguer trois raisons principalement invoquées par les élus américains et l'administration américaine. La première, c'est le risque de captation de données des citoyens américains, en particulier de certains citoyens, donc les politiques, les militaires et les journalistes, qui pourraient ensuite être transférés aux autorités chinoises, puisque la loi chinoise le permet. Et donc, le fait que certaines applications captent les données des citoyens, c'est pas particulièrement nouveau, puisque c'est aussi le business model de Facebook, Instagram, etc. Mais là, le fait que ce soit fait par une application avec des liens avec la Chine, et donc qui pourrait permettre ce transfert de données avec la Chine, c'est problématique. Et d'ailleurs, ça a déjà été la question a déjà été posée pour une autre application. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'application Grindr, une application de rencontre gay,
oui.
Exactement. Et c'était la même question, c'était que comme l'application avait été rachetée par des investisseurs chinois, là, les autorités américaines et le fameux comité que j'évoquais tout à l'heure ont obligé la revente de cette application parce qu'il y avait un risque que cette application permette de collecter des données, notamment potentiellement compromettantes, vu la nature de l'application, qui est une application de rencontre amoureuse, et que ça puisse être utilisé pour faire pression sur certains politiques, militaires, etc. Donc ça, c'est la première raison invoquée, c'est le risque
J'allais dire, ça ne pose pas problème si c'est les États-Unis qui collectent ces données parce que ce serait éventuellement une application américaine, mais si c'est la Chine, ça pose problème.
Voilà, exactement. Parce que là, il y a un risque de l'utiliser à des fins politiques, de faire levier, de l'utiliser à des fins d'espionnage, de savoir où vont telle ou telle politique.
N'importe quel pays pourrait faire ça en soi. N'importe quel pays pourrait utiliser les données, n'importe quelle donnée à ce genre de fin.
Oui.
Je dis pas que les États-Unis veulent le faire, mais ils pourraient.
Oui, tout à fait. Mais disons que ça leur pose moins de problèmes. Alors, ou en tout cas, ça pose plus de débats dans les partis politiques quand c'est fait par des applications américaines.
Bien sûr.
Puisque, au pire, elles transmettront les données aux autorités américaines. Donc, mais par contre, c'est tout à fait vrai que, par exemple, beaucoup des élus, notamment démocrates, qui sont favorables plus largement à une meilleure protection des données personnelles aux États-Unis, non seulement pour TikTok, mais aussi pour la collecte de données par Facebook, Instagram, etc., qui depuis longtemps, puisque c'est un peu un marronnier quand même de la politique américaine, qui depuis longtemps essaye de promouvoir des projets de loi sur la protection des données au niveau fédéral comme un espèce de RGPD européen, utilise l'argument de TikTok en disant en fait ça ne suffit pas de simplement quand il y a des cas X ou Y d'applications qui sont contrôlés par des adversaires étrangers, de là se préoccuper de la question des données des citoyens américains, il faudrait une régulation, une législation plus large. Mais ça fait beaucoup moins consensus que de dire le grand méchant chinois.
Oui, bien sûr, bien sûr. Donc et le RGPD qui est le règlement européen sur les données. Donc là, vous parliez de cette collecte, de ce danger finalement, ce risque de collecte et d'utilisation des données des utilisateurs américains par les Chinois.
Voilà.
Quels sont les autres risques ?
Alors, les deux autres raisons qui sont invoquées, c'est d'abord les risques de manipulation de l'algorithme à des fins politiques et de désinformation. C'est-à-dire que le risque est que les autorités chinoises, via ByteDance, via TikTok, puissent faire monter en puissance certains sujets ou réduire certains autres sujets. C'est notamment ce qu'a essayé de montrer le Select Committee sur la compétition avec le Parti communiste chinois, qui a un nom pompeux, mais qui est en fait une commission de la Chambre des représentants, qui a d'ailleurs fait une audience à laquelle j'étais, qui était plutôt amusante, puisqu'il montrait un PowerPoint en montrant en fait le nombre de hashtags entre Instagram et TikTok sur des sujets classiques, type Barbie, Trump, etc., et qui montrait que c'était il y avait à peu près la même représentation, en tout cas le même différentiel de représentation entre les deux plateformes, alors que pour d'autres sujets, vous voyez que la différence était beaucoup plus marquée, avec par exemple sur des sujets comme le soutien aux Ouïghours qui sont sous-représentés comme type de hashtag sur TikTok, le soutien à Israël également ou à l'Ukraine, ou bien sûr les posts sur Tiananmen. Et ça les conduit à suspecter des possibles, si ça ce n'est pas déjà le cas, mais en tout cas ce serait possible pour les autorités chinoises de diminuer certains sujets, augmenter d'autres sujets, et donc de manipuler l'opinion publique américaine et de provoquer de la désinformation dans l'opinion publique américaine.
D'accord.
Et le troisième, le suspense s'arrête là. Ça, c'est un sujet qui est plutôt lié aussi, qui est inclus dans les critiques faites à Facebook, etc. aussi. C'est la question de la santé mentale des enfants.
D'accord.
Ça fait partie des rares projets de loi qui ont peut-être des possibilités d'être adopté au Congrès sur la question des régulations numériques qui font souvent beaucoup débat. La question de la santé mentale des enfants, notamment dans le cadre un peu des révélations ces dernières années sur l'impact qu'avaient les réseaux sociaux, parfois d'ailleurs tout à fait connus des plateformes sur la santé mentale des enfants.
Les Facebook Files.
Voilà, exactement.
Ok, donc ça, c'est les trois risques finalement, mais si on est honnête, on peut aussi dire que il y a un contexte. TikTok fait très très mal aux réseaux sociaux historiques qui sont américains. Donc il y a peut-être une question aussi, une problématique de concurrence économique. Et puis il y a aussi un contexte de forte tension entre la Chine et les États-Unis, notamment entre autres à cause des tensions de la guerre technologique que se livrent les deux pays avec des sanctions américaines sur les semi-conducteurs. Mais ces deux éléments-là, la concurrence économique et les tensions géopolitiques, c'est aussi à prendre en compte, non, dans les procédures à l'encontre de TikTok.
Alors, je pense que la question de la compétition économique et technologique joue tout à fait et fait tout à fait partie du contexte, et que de manière générale, en fait, la perspective potentielle d'un conflit militaire avec la Chine est un peu la raison qui percole sur tous ces sujets. Donc, les élus américains sont d'autant plus préoccupés des risques de captation des données, de manipulation de l'information, parce qu'ils considèrent que les États-Unis sont dans une compétition technologique accrue avec la Chine. En revanche, je nuancerai un petit peu sur la question du fait que TikTok fait très mal aux réseaux sociaux américains et que ça pourrait être une des raisons invoquées pour l'interdire, parce que c'est effectivement une crainte qui a d'ailleurs été exprimée par Trump lui-même dans un spectaculaire retournement de situation, que l'interdiction de TikTok bénéficie directement aux réseaux sociaux américains. C'est ce que Trump a dit, interdire TikTok, c'est juste favoriser Facebook, et ça peut soit être considéré comme problématique, soit bénéfique en fonction du camp dans lequel vous vous trouvez. Donc c'est effectivement quelque chose qui est considéré, le fait que ça puisse bénéficier aux réseaux sociaux américains, mais je dirais pas que c'est une des raisons majeures motivant ces projets d'interdiction, puisque quand même ces grandes plateformes n'ont pas la cote au Congrès ces derniers temps. Vous avez parlé des Facebook Files, mais de manière générale, on observe une forme de tech-lash, de technological backlash, de retour de bâton sur le plan technologique, où il y a quand même une dimension assez critique, fortement portée par l'administration Biden, mais aussi présente au Congrès, sur le fait que les grandes plateformes, alors pour des raisons très différentes en fonction de où vous vous placez sur le spectre partisan, mais que ces grandes plateformes devraient être davantage régulées. Donc je pense que l'objectif, c'est pas majoritairement d'essayer de restaurer la puissance des GAFAM.
D'accord, ok. Et vous avez évoqué le retournement de veste, on va dire, de Donald Trump. Je pense qu'on peut quand même utiliser ce terme-là. On y reviendra juste après aussi. Mais est-ce qu'il y a une différence, est-ce qu'il y a eu une différence, du coup, entre l'approche de l'administration de Trump vis-à-vis de TikTok et de l'éventuelle interdiction et de l'administration Biden? Est-ce qu'il y a une différence entre ces deux administrations?
C'est assez intéressant parce que les deux administrations se sont clairement positionnées sur la question dans une même continuité de perception des risques associés au fait qu'il y ait des acteurs chinois dans les applications et les infrastructures de communication utilisées aux États-Unis. La différence, je dirais, c'est que l'administration Biden est peut-être un peu plus précautionneuse sur le plan juridique, puisqu'elle essaie justement d'éviter que ces décrets ne soient déboutés en justice comme ça a pu se passer pour l'administration Trump. Okay, l'autre différence, c'est que Biden a fait son entrée sur TikTok récemment.
Oui, et justement, c'est assez ironique finalement de le voir, alors campagne présidentielle oblige, mais il se dit favorable à l'interdiction du réseau social et puis il débarque sur TikTok.
Oui, exactement. Ça lui a été reproché et ensuite les membres de l'administration essayent de défendre cette position en marchant sur un fil, on va dire, en essayant de dire qu'effectivement dans le cadre de la campagne c'est important de rencontrer les électeurs là où ils sont, puisqu'aujourd'hui je crois que près d'un tiers des jeunes s'informent principalement via TikTok, et en même temps, effectivement, ils ont soutenu les projets de loi au Congrès, notamment le dernier projet de loi, en disant qu'ils ne transigent bien sûr pas sur la sécurité nationale, et qu'ils ont d'ailleurs pris des mesures de cybersécurité renforcées sur la question du compte de l'administration Biden, même sur TikTok.
Reste à voir si ça va vraiment convaincre comme argument ou pas. Quelques mots avant de passer réellement au projet de loi en discussion en ce moment outre-Atlantique. Quelques mots sur TikTok et ses réactions. Je ne parle pas de sa réaction au dernier projet de loi, dont on va parler juste après, mais de ses précédentes réactions, notamment avec un projet appelé Texas, qui était censé donner des gages de confiance aux autorités et aux responsables américains. Finalement, ça n'a pas fonctionné.
Oui, en fait, c'est... TikTok s'est engagé depuis le début des procédures en 2020 dans certaines mesures, comme j'expliquais, de mitigation pour essayer de limiter les risques, pour essayer de donner des gages aux autorités américaines, notamment sur le fait que les données des citoyens américains ne seraient pas transmises en Chine, etc. Ça a du mal à convaincre, notamment on l'a vu au moment où le CEO de TikTok s'est présenté devant le Congrès, et il a difficilement pu assurer qu'aucune donnée de citoyen américain ne pourrait être fournie aux autorités chinoises, etc., puisque lui aussi il est un peu pris entre deux feux, entre les exigences des autorités chinoises et les exigences des autorités américaines. Et ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait, avec la politisation du sujet TikTok et du sujet Chine de manière générale, en fait, même si le comité que j'évoquais plus tôt décidait que certaines mesures de mitigation sont suffisantes, même si certaines mesures pour limiter les risques sont prises, etc., le niveau de politisation fait que le Congrès, certains congrès en tout cas, risquent toujours de ne pas en être satisfaits.
Venons-en maintenant enfin au projet de loi au centre de l'actualité en ce moment, surtout outre-Atlantique, un projet de loi bipartisan dévoilé fin février, début mars. Que prévoit-il cette fois? L'interdiction ou la vente forcée?
Alors, justement, c'est ce sur quoi insistent les élus. Le projet de loi, en fait, prévoit de forcer ByteDance, la maison mère chinoise de TikTok, à désinvestir TikTok. Sinon, dans ce cas, si jamais il y a toujours un lien entre ByteDance et TikTok, alors les app stores divers et variés ne permettront plus de télécharger ou de mettre à jour TikTok, ce qui revient en fait à l'interdire. Et d'ailleurs, ce projet de loi donnerait aussi cette même autorité au président pour d'autres applications que TikTok qui sont également contrôlées par des adversaires étrangers. Donc, ce que essayent de dire les élus, c'est que ça n'est pas une interdiction de TikTok à proprement parler. Ils veulent juste essayer de séparer TikTok de ses liens avec les investisseurs et le Parti communiste chinois. C'est une nuance qu'ils essayent vraiment de mettre en avant pour un peu aussi faire passer la pilule auprès de notamment des jeunes qui s'insurgent contre l'interdiction de leur application favorite. Et c'est aussi une légère nuance qui le distingue d'autres projets de loi un peu plus vastes ou en tout cas plus directement centrés sur l'interdiction.
Et si ce projet de loi fait aussi beaucoup parler, c'est peut-être par sa rapidité dans le processus législatif, non ? Il avance très très vite.
Oui, c'était assez impressionnant, à vrai dire. J'ai regardé le donc ce projet de loi a été déposé le 5 mars, comme vous l'avez dit, par un groupe bipartisan d'élus à la Chambre, et ensuite il a été voté à l'unanimité en commission. Je regardais le passage en commission et c'était assez impressionnant d'entendre ces 50 oui, ces 50 votes pour. Et zéro vote non au moment du passage en commission. Et ensuite, plus récemment, il a été voté avec une écrasante majorité à la Chambre des représentants. Au-delà de ça, l'administration Biden, donc la Maison-Blanche, a aussi indiqué qu'il signerait le projet de loi s'il l'arrivait sur leur bureau et a incité même le Sénat à se saisir de la question, ce qui reste une autre paire de manches.
Et oui, on va en parler juste après du Sénat, le Sénat qui permettra finalement ce sujet du Sénat, qui nous permettra de relativiser peut-être la possibilité de l'interdiction ou de la vente forcée de TikTok. On va le voir juste après. Au-delà de la rapidité avec laquelle ce projet, cette proposition est votée, qu'y a-t-il de différent ? J'aimerais revenir un peu sur la nuance dont vous parliez juste avant par rapport aux autres tentatives. Est-ce que c'est de la communication ? Est-ce que c'est quelque chose de réel et d'important, cette nuance ?
Alors déjà, par rapport à d'autres projets de loi qui ont été adoptés, bien sûr, la différence, c'est que ce projet de loi concerne tous les appareils et tous les utilisateurs de TikTok et non pas seulement, comme d'autres projets de loi, les appareils des fonctionnaires fournis par le gouvernement, comme je l'évoquais tout à l'heure. Ensuite, il y a eu toute une série de projets de loi qui, en fait, essayaient de passer par différents canaux législatifs pour donner au président, en général, l'autorisation d'interdire TikTok. Certains étaient quand même plus holistiques, plus larges et autoriser directement soit les interdictions, soit d'interdire directement les plateformes, soit certaines transactions. Donc c'est un peu comme ils savent que ça va être fortement contesté dans les cours de justice par la suite, à chaque fois ils essayent de passer par différents types de lois, faire appel à différents types de lois, etc. Je suis un peu partagée parce que c'est à la fois une nuance importante au sens où elle ne cherche pas à systématiser les interdictions d'applications chinoises et en même temps le discours qui est tenu de dire que ça n'est pas du tout une interdiction, c'est simplement demander de couper les liens est un peu facile,
naïf.
Un peu naïf, oui. Enfin je pense pas que ce soit de la naïveté, je pense que c'est tout à fait calculé, mais je veux dire c'est un peu un double discours puisqu'ils savent très bien que la possibilité de la vente est quand même compliquée.
Oui, et ça on va aussi le voir si vente il doit y avoir, et ben ça sera pas si facile que ça. Comment a réagi TikTok ? Comment se défend le réseau social ?
Ah ça, ça a été vraiment très intéressant parce que bon, ça fait déjà quand même, comme on l'a évoqué, quelques temps qu'il y a un certain lobbying de TikTok, que son CEO se présente au Congrès lors des auditions pour répondre aux questions des élus et pour essayer de défendre son application, la sécurité des données via son application, etc. Mais là, je pense qu'il y a eu une forme d'erreur de communication publique, puisqu'en fait, TikTok, en voyant le progrès rapide de ce projet de loi, a essayé de mobiliser ses utilisateurs pour leur dire d'appeler leurs élus pour empêcher le vote de ce projet de loi et donc a envoyé une notification push aux utilisateurs en leur disant « Dites-moi quel est votre code postal, je vous donne directement le numéro de votre élu à la Chambre. Et donc, les élus ont reçu un déluge d'appels paniqués, menaçants, inquiets de beaucoup d'utilisateurs, jeunes et moins jeunes, qui n'avaient pas forcément compris tout le débat public, mais qui juste expliquaient qu'ils ne voulaient pas que leur application soit interdite. Et ça a été à la fois une démonstration puissante du soutien d'une partie de l'opinion publique pour TikTok, qui a dû avoir un impact sur les élus, mais en même temps, ça a été une erreur de communication publique, puisque pour une application qui fait peur par sa capacité d'influencer l'opinion publique, réussir du jour au lendemain en une notification à mobiliser autant de gens pour qu'ils justement essayent d'avoir une influence sur un projet de loi a été plutôt très mal interprété par les élus
oui.
qui ont trouvé ça très très irritant de voir que TikTok avait la possibilité de mobiliser autant de citoyens américains.
Finalement, ça peut avoir l'effet inverse. Ça peut en motiver certains à voter pour l'interdiction, enfin pour le projet, plutôt que d'écouter leurs électeurs. Okay.
C'est exactement ce qui s'est passé. Oui.
Je comprends mieux pourquoi vous évoquiez une erreur de communication. Maintenant, c'est au tour du Sénat de voter, c'est ça la prochaine étape. Est-ce que vous êtes d'accord avec le fait qu'il faut peut-être relativiser un peu le risque d'une interdiction, d'une vente forcée, bref, le risque que ce projet devienne loi et estimer qu'il y a des chances finalement que le texte ne soit pas réellement adopté parce que, en fait, c'est pas sûr que le Sénat vote pour.
Exactement, en fait, c'est déjà qu'ils s'en saisissent. Et ensuite qu'ils l'adoptent, c'est effectivement très très incertain. L'avenir de ce texte au Sénat est très incertain. D'abord parce que au Sénat, il y a actuellement beaucoup de débats liés à ce texte sur est-ce que c'est vraiment la meilleure manière de protéger les données des Américains, quelle serait la meilleure manière, également sur les risques d'abus de pouvoir, enfin que ça représente un abus de pouvoir de l'État ou que ça représente une violation du premier amendement qui garantit la liberté d'expression. Électoralement, c'est aussi un petit peu compliqué puisque effectivement, ils savent que ça risque de provoquer le lire de jeunes, notamment de jeunes électeurs. Enfin voilà, il y a toute une série de débats qui ne tombent d'ailleurs pas forcément sur des lignes partisanes autour de ce projet de loi en question. Cependant, ceci étant dit, il y a quand même eu ces derniers temps des briefings de la part d'agences de sécurité nationale auprès des élus qui ont vraiment souligné le risque pour la sécurité nationale, qui ont commencé à convaincre une majorité d'élus. Et donc, il me semble possible qu'une version de ce texte soit adoptée, même si elle sera modifiée par rapport à celle de la Chambre, et même si une fois adoptée, il reste encore plusieurs étapes avant l'interdiction totale.
N'oublions pas non plus que 2024 est une année électorale d'élection présidentielle aux États-Unis. C'est sûr que ça doit jouer un petit peu quand ça concerne autant de jeunes électeurs. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque que le Sénat ne vote pas pour ce texte et n'adopte pas ce texte à cause du retournement du changement de position de Donald Trump qui s'est finalement exprimé contre ce projet de loi en s'en prenant au passage à Facebook et à Mark Zuckerberg. Bref, il a fait du Trump. Mais est-ce que ça pourrait peser dans la balance au moment du vote ?
Alors ça, c'est vrai que ça a été très intéressant et ça a placé un certain nombre d'élus conservateurs, puisque maintenant le Parti républicain est quand même dans une relation assez fusionnelle avec le candidat Trump, ça a placé un certain nombre d'élus dans une situation très très compliquée, puisque ça met en contradiction directe la personne qui pensait être un faucon sur la Chine, qui allait être très dur sur la Chine et très porté sur la sécurité nationale, voilà, selon une orientation classique des conservateurs qui mettent beaucoup l'accent sur la sécurité nationale, et les déclarations directes récemment de Donald Trump lui-même. Donc je pense qu'il y en a beaucoup qui s'est placé dans une situation très compliquée. Je suis pas sûre que ça va forcément beaucoup jouer dans la balance au niveau du vote, dans la mesure où la question de la sécurité nationale est quand même électoralement toujours une bonne carte à jouer, la Chine également, et où certains de ces élus ont quand même des avis sur la question ont été briefés par les agences de sécurité nationale, etc., et ont des avis sur la politique à adopter envers la Chine, envers les technologies, etc., qui ne sont pas uniquement corrélé aux déclarations de Donald Trump.
Mais admettons, imaginons que le projet de loi est adopté. Joe Biden a déjà dit que si le Sénat l'adopte, il signera pour que ça devienne vraiment loi et que ça entre en vigueur. TikTok pourrait toujours faire traîner les choses en justice et peut-être même obtenir d'un juge qu'il bloque le projet. Non, comme au Montana, vous avez évoqué avant cette affaire, cette tentative au Montana, et peut-être même bénéficier des doutes quant au respect du premier amendement de la Constitution qui garantit la liberté d'expression.
Oui, tout à fait, c'est même à peu près sûr qu'il y aura des batailles juridiques acharnées. Oui, c'est très très probable. Après, c'est toujours difficile d'en définir l'issue, sinon le Congrès ne s'embêterait pas à passer des lois.
Oui, c'est
mais,
sûr.
En tout cas, l'histoire montre ces derniers temps que, effectivement, que ce soit le décret présidentiel de l'administration Trump ou les lois du Montana, par exemple, TikTok est à chaque fois parvenu à soit débouter, soit mettre en pause l'application d'interdiction le concernant. Donc, c'est sûr que la dimension juridique va être très, très importante dans l'année à venir. Et oui, le fait qu'il y aura des batailles juridiques acharnées semble très probable. Après, la différence, cette fois-ci, par rapport, par exemple, à la question du Montana, c'est que l'une des problématiques mises en avant par le juge au moment de sa décision dans le Montana, c'était la violation du Premier Amendement, mais aussi la violation du rôle du Congrès de réguler les questions commerciales avec les nations étrangères. Or là, ce serait quand même une loi du Congrès fédéral, donc cette question-là est un peu écartée. Mais oui, tout à fait, sur la question de la violation du premier amendement, c'est sûr que TikTok est en train d'embaucher les meilleurs avocats de la presse.
Oui, toute une horde d'avocats, ça c'est fort probable. Et puis ça fera traîner encore plus les choses, ça prendra encore plus de temps que prévu. Donc avant, de toute façon, en 2024, c'est peu probable qu'on ait le fin mot de l'histoire. Mais même si la loi n'est pas bloquée, un problème pourrait quand même se poser. Pékin. Est-ce que Pékin pourrait autoriser une vente de TikTok?
Oui, alors ça, ce serait un peu encore la troisième étape. Si la loi est votée, que les juges considèrent qu'elle peut s'appliquer et que Biden s'est forcé à soit se d'investir de TikTok, soit être interdit, il faudrait encore que Pékin autorise cette vente, ce qui semble assez problématique, puisque justement, au moment où l'administration Trump commençait à évoquer ce que vous évoquez plus tôt sur la possibilité de vendre TikTok à Microsoft ou en tout cas à une entreprise américaine, les autorités chinoises ont soumis les algorithmes au contrôle des exportations chinoises. Par conséquent, pour que TikTok puisse être vendu à des entreprises américaines ou en tout cas non chinoises avec son algorithme, il faudrait un accord du gouvernement chinois. Et ça semble pas du tout sûr d'être autorisé par le Parti communiste.
Oui, donc c'est encore finalement c'est ByteDance qui va la maison mère de TikTok qui va se retrouver dans une position très inconfortable entre finalement Pékin qui dit non et Washington qui dit bah si. Et ByteDance au milieu et TikTok et les utilisateurs de TikTok qui ne sauront pas à quelle sauce ils vont être mangés au final. Finalement, pour résumer, si le projet devient loi et entre en vigueur, quelles seront les principales conséquences, selon vous? À quoi on peut s'attendre si tout ça se réalise, que TikTok devient américain ou est interdit?
Alors en fait, la difficulté dans la réponse à cette question, c'est que les conséquences dépendront, comme on l'a déjà évoqué, de deux facteurs. Les décisions des cours de justice, c'est-à-dire que si de toute façon les cours de justice définissent que la loi qui a été adoptée n'est pas conforme à la Constitution, dans ce cas-là, il faudra relancer toute une procédure législative, une nouvelle loi, etc. Mais TikTok ne serait donc pas interdit, pas vendu, continuerait de fonctionner exactement de la même manière. Si les cours de justice considèrent que la loi est constitutionnelle et peut s'appliquer, alors se posera la question, en plus de la décision du Parti communiste, sur justement l'algorithme, pour savoir si l'interdiction prend lieu, ou si il faut être vendu. Et alors là, ça pose encore une question de quel sera le montage, qui seront les investisseurs, est-ce que l'algorithme pourra dans sa totalité continuer à être appliqué, etc. Et il y a encore un autre facteur qu'on n'a pas évoqué, c'est le fait que TikTok ne devienne plus la grande mode et perde son attrait aux États-Unis naturellement.
Finalement, oui, ça pose énormément et de problématiques. Et puis il y a aussi TikTok Shop qui commence à faire un peu son petit trou. C'est une plateforme commerciale aussi en quelque sorte. Donc beaucoup d'entreprises dépendent de TikTok aux États-Unis également. Donc ça aura des conséquences aussi éventuellement là-dessus. Eh bien, on terminera ce podcast en prenant les paris. Selon vous, est-ce que TikTok va être interdit ?
Alors là, je ne vais pas sortir ma boule de cristal. Je vais éviter stratégiquement cette question. En tout cas, je pense que la montée en puissance des agences de sécurité nationale qui vraiment très régulièrement, quelles que soient les administrations, alertent sur les risques pour la sécurité nationale, va conduire à des restrictions sur les applications américaines ou des protections des données des citoyens américains pour qu'elles ne soient pas vendues à l'étranger, et tout un panel en fait de restrictions qui, s'il n'interdit pas TikTok, va contraindre plusieurs parties de ces activités d'algorithmes d'applications chinoises.
Et comme on l'a déjà dit, de toute façon, c'est encore une saga qui va nous occuper tous, toutes et tous, pendant un bon moment, parce que on n'aura pas le fin mot de l'histoire tout de suite. On aura peut-être un jour l'occasion d'en reparler. En tout cas, merci pour votre venue dans cette émission et votre expertise, Mathilde.
Avec grand plaisir.
Je tiens également à vous remercier, chers auditeurs et chères auditrices, pour votre écoute et votre fidélité. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires et une note, soyons fous. Vous pouvez aussi vous abonner et écouter nos autres podcasts sur siècledigital.fr et sur les plateformes de streaming. Quant à moi, je vous dis à bientôt.
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made ByHeart, a better formula for formula. Learn more at ByHeart.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.